Lionel Gougelot vous informe sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, voici le journal de Raphaël Delvolvé. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Il est 19h. Et à la une ce soir, Éric Zemmour devant 4000 personnes à Cannes en ce moment.
Son quatrième meeting de l'année dans une région qui réussit à la droite. Le candidat Reconquête s'affiche auprès de ses derniers soutiens. Il y en a eu 3 en 3 jours, dont le très médiatique Gilbert Collard. Europe 1 est sur place. Valérie Pécresse assure le soutien du centre droit. Hervé Morin pour les centristes et Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI l'investissent candidate aujourd'hui. Quel intérêt pour Valérie Pécresse? Explication dans ce journal de Louis de Ragnel. Et puis à suivre, Anne Hidalgo se donne du courage avec un meeting à Aubervilliers. La flambée des prix des fruits et légumes. La vérité sur les violences secouant la Guadeloupe depuis 3 mois. Sans oublier les sports, menu copieux ce soir avec de la Ligue 1 et du handball.
Sans oublier notamment la météo, la tendance, Valérie Darmon.
Eh bien, nuages bas et grisailles persistantes dans le nord de la France, brouillard givrant en matinée et plein soleil en montagne et près de la Méditerranée.
Mais avant de développer tous ces titres, cette information, l'aventurier Jean-Jacques Savin a été retrouvé mort ce soir dans son canot.
À 75 ans, ce Girondin tentait de traverser l'Atlantique à la rame. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis vendredi. Il venait de déclencher ses balises de détresse. Bonsoir Marion Gauthier.
Bonsoir.
Marion Gauthier, il a été retrouvé au large des Açores.
Oui, c'est la sécurité maritime portugaise qui a localisé hier son bateau retourné au large de l'archipel. Profitant d'une meilleure météo, aujourd'hui un plongeur a visité l'embarcation et trouver le corps sans vie de l'aventurier septuagénaire. Jean-Jacques Savin expliquait mercredi sur sa page Facebook qu'il rencontrait quelques problèmes matériels. Son capteur solaire notamment, qui lui permettait de désaliniser son eau, ne fonctionnait plus. Il se dirigeait vers le port de Ponta Delgada dans les Açores pour réparer. Et c'est dans la nuit de jeudi à vendredi que son équipe a perdu sa trace au nord de Madère. Sa fille manifestait il y a quelques heures son inquiétude. Jean-Jacques a déclenché ses 2 balises de détresse, écrit-elle, craignant une situation de très grandes difficultés. Son père s'était illustré en 2019, 4 mois dans un tonneau, une autre traversée en solitaire au gré des courants. Il a fêté ses 75 ans le 14 janvier dernier à bord de l'Audacieux, son canot de 8 mètres de long, 1,70 m de large. Il voulait être le doyen de l'Atlantique.
Merci Marion Gauthier.
L'information, la politique ce soir, c'est Éric Zemmour qui tient donc un meeting en ce moment même à Cannes.
Le candidat Reconquête est en terrain ami. Éric Zemmour chaudement accueilli dans les rues de Cannes cet après-midi avec un grand bain de foule. Et il rassemble donc en ce moment ses soutiens au Palais des Victoires où nous rejoignons Victor Chabert. Victor, Éric Zemmour espérait réunir 4000 personnes. Nous n'avons pas de chiffres précis, mais vous nous le confirmez, il y a du monde, hein?
Ah oui, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde ici au Palais des Victoires à Cannes. On se croirait dans un chaudron, plus de 4000 personnes avec des centaines de drapeaux tricolores à la main, vous l'entendez derrière moi. Il y a même du retard dû à l'affluence, ça devait commencer à 18h30, mais dehors il y a encore des dizaines de mètres de file d'attente. Au pupitre, il y aura Guillaume Pelletier, Jérôme Rivière, le nouveau transfuge Gilbert Collard qui a annoncé son ralliement hier soir, et enfin Éric Zemmour pour un discours axé sur l'union des droites. C'est la stratégie qu'il veut mettre au cœur de sa campagne. Éric Zemmour le fait ici à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, une terre traditionnellement à droite, où il a reçu un excellent accueil ce matin. Il a déambulé plus de 2 heures sur un marché de la ville avant que cela se transforme en bain de foule. Avec les ralliements de Jérôme Rivière, ex-RN, de Gilbert Collard, ex-RN, cette séquence ce matin dans les rues de Cannes et ce soir ce meeting devant plusieurs milliers de personnes, c'est un week-end qui peut lui redonner de la dynamique. Il est dans les sondages à quelques points de Valérie Pécresse et Marine Le Pen, 13% contre 15,5% pour ses concurrentes. D'autres ralliements viendraient d'ailleurs des deux côtés, LR et RN, dans les prochaines semaines, nous confie son entourage.
Merci Victor Chabert à Cannes pour Europe 1. On rappelle, Éric Zemmour est pour le moment crédité de 11 à 13% dans les sondages.
La politique toujours. De son côté, Valérie Pécresse reçoit le soutien précieux des partis de centre-droit.
La candidate Les Républicains était à Vincennes cet après-midi. Elle a déclaré devant le Conseil national de l'UDI être prête à présider la France avec le parti de Jean-Christophe Lagarde. L'UDI, deuxième soutien en moins de 24 heures pour Valérie Pécresse, puisque ce matin, les centristes officialisaient leur soutien à la candidate LR. Le parti d'Hervé Morin pèse peu dans l'opinion. Alors Louis de Ragnel, expliquez-nous pourquoi ça reste quelque chose d'important pour Valérie Pécresse.
Eh bien, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Valérie Pécresse et Hervé Morin se connaissent bien depuis longtemps. Ils ont tous les deux été ministres de Nicolas Sarkozy dans le même gouvernement. Ensuite, Valérie Pécresse est en train de réaliser une véritable union de toutes les chapelles qui composaient, il y a quelques années, l'UMP. Ce n'était pas du tout gagné d'avance. Il y a encore quelques mois, pour de nombreux cadres des Républicains, une telle opération aurait relevé du miracle. Alors, ça n'aura pas forcément d'impact immédiat dans les sondages, mais l'objectif de Valérie Pécresse est d'abord et avant tout d'éviter toute candidature dissidente qui pourrait lui prendre même quelques voix. Car elle le sait, sa qualification au deuxième tour n'est pas gagnée d'avance, notamment face à une Marine Le Pen avec qui elle est au coude à coude dans les sondages pour le moment et à un Éric Zemmour toujours en embuscade.
Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. Passons à la gauche maintenant, avec d'abord cette proposition du candidat communiste. Fabien Roussel, invité du 13h de TF1, propose un permis de conduire gratuit pour les moins de 25 ans. Il doit dévoiler son programme détaillé lundi.
La candidate socialiste Anne Hidalgo cherchait, elle, à relancer sa campagne aujourd'hui. C'était à Aubervilliers, très précisément, cet après-midi.
Oui, un meeting durant lequel PS voulait rassembler 1500 personnes. Pas sûr qu'Anne Hidalgo y soit arrivée. Beaucoup de chaises vides dans la salle. Il y avait quand même des centaines de personnes pour écouter la maire de Paris. Consciente d'être mal placée dans les sondages, on lui prédit moins de 5%. Anne Hidalgo refuse cependant de se laisser abattre.
À chaque échéance, on m'a donné battu, exclu, illégitime, renvoyé à l'opposition. À chaque échéance, à la tête d'une majorité de la gauche unie, j'ai tenu bon et nous avons gagné ces scrutins qu'on disait perdus d'avance. Et on voudrait que je me résigne, que nous nous résignions devant la difficulté. Alors, à tous ces prophètes de malheur, je leur dis, mais dans vos rêves!
Anne Hidalgo, la candidate socialiste qui a également soumis quelques propositions, la suppression de Parcoursup ou encore une hausse du SMIC à hauteur de 15%. Comme d'autres candidats, Anne Hidalgo fait du pouvoir d'achat un thème majeur de sa campagne. Le pouvoir d'achat à l'épreuve de la hausse des prix, prix du gaz, de l'électricité, du carburant, mais aussi, et on en parle moins, des prix des fruits et légumes. Thibaut Hue, vous l'avez constaté sur un marché parisien ce matin.
Oui, et les clients que j'ai pu croiser sont unanimes, les prix ont monté, ça se sent. Yannick vient au marché toutes les semaines et quand il fait les comptes, son panier coûte plus cher qu'avant.
Au marché, là, je viens d'acheter pour 33 euros de fruits, c'était pas le prix que je payais il y a 2 ans. Il va falloir que je commence même moi à faire gaffe à ce que j'achète et faire attention au prix des légumes, ouais, et des fruits surtout.
Alors faire attention pour certains, mais pour d'autres plus modestes comme Michel, c'est déjà plus compliqué.
Moi je suis retraité, donc ça c'est un problème, j'ai moins de pouvoir d'achat. Je fais comme je peux, hein. J'achète un peu moins ou bien j'achète des choses meilleur marché.
Et ces prix ont augmenté progressivement, notamment avec la crise sanitaire, c'est ce qu'explique Daniel Sauvêtre, secrétaire général de l'interprofession des fruits et légumes frais.
Avec le Covid, comme il y avait une certaine difficulté à la production, à trouver de la main-d'œuvre, on a en effet constaté une hausse de prix. En 2021, il y a eu un gel assez conséquent au printemps qui a touché quelques fruits, hein, l'abricot, la poire principalement.
Et conséquence de la hausse des rayons de fruits et légumes beaucoup moins fréquentés en 2022. Par exemple, les ventes d'endives, de poireaux et de carottes ont baissé de 20 à 30% selon l'Interfel, avec des consommateurs qui se tournent plus vers du surgelé ou des plats préparés.
Un reportage de Thibaut Huch. Les antipasses manifestaient de nouveau dans toute la France. Les chiffres du jour du ministère de l'Intérieur seront bientôt connus. La semaine dernière, ils étaient 54 000. Ces manifestations interviennent à 2 jours de l'entrée en application du pass vaccinal. Le vaccin anti-Covid, objet d'énormes tensions en Guadeloupe ces 3 derniers mois. Des manifestations violentes, mais aussi des pillages, des barrages et des barricades pour protester contre l'obligation vaccinale des soignants notamment. Après enquête de la justice, l'affaire semble en réalité bien plus complexe d'après les premiers éléments révélés par le procureur. Précision à Pointe-à-Pitre d'Amandine Asensio.
Des violences orchestrées, planifiées. Hier, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, a longuement insisté sur le degré de préparation des émeutes de Guadeloupe qui durent encore aujourd'hui. Et si les gangs de Lille sont impliqués, l'enquête semble avoir mis le doigt sur un système beaucoup plus large.
Les éléments obtenus permettaient rapidement de faire apparaître la complicité, pour ne pas dire l'implication active d'un fonctionnaire de police. On était déjà dans la trahison. Le but était d'une part d'obtenir des sommes conséquences de la part de grands groupes en échange de la promesse de ne pas lancer les émeutiers contre leurs intérêts. L'autre visée était de bénéficier de subventions par le biais d'associations utilement créées à la faveur de négociations à venir avec l'État le cas échéant ou à la faveur en tout cas, et je pèse mes mots, de relations parfois troubles avec certains élus locaux.
Lundi, 8 personnes, dont le policier, ont été interpellées et placées en garde à vue pour 96 heures. Hier, les 8 ont été mises en examen et 7 d'entre eux placés en détention provisoire, des faits d'associations de malfaiteurs notamment. Une information judiciaire a été ouverte, dirigée par deux juges d'instruction. En Guadeloupe, Amandine Asensio, Europe 1.
Les obsèques de Gaspard Ulliel auront lieu jeudi prochain. Ce sera en l'église Saint-Eustache à Paris. L'acteur s'est éteint à 37 ans cette semaine des suites d'un accident de ski à Bourg-Saint-Maurice.
On passe au sport avec tout d'abord un coup d'œil sur l'Euro de handball. Les Bleus jouent contre l'Islande en ce moment.
Oui, deuxième match du tour principal. Ça se passe pas très bien pour l'équipe de France, largement menée par l'équipe d'Islande. Nous y reviendrons tout à l'heure.
Et puis le football avec la victoire de Brest contre Lille cet après-midi en Ligue 1.
Victoire 1-0 des Bretons.
Il y a eu un pénalty dans les dernières minutes.
Oh, je l'ai raté. Merci Lionel. Heureusement que vous êtes là. Victoire 2-0 donc des Bretons. L'événement du match était aussi, vous le savez, le grand retour d'Atem Ben Arfa. Il a rejoint le LOSC cette semaine. Il a joué un gros quart d'heure. Mm-hmm. Il n'avait plus foulé une pelouse de Ligue 1 depuis mai dernier. On passe maintenant à l'autre match du jour. Lens Marseille, affiche de prestige que suit pour nous Jean-François Pérez. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
Les Sang et Or aiment ce genre de rencontre, ce genre de grand rendez-vous cette saison.
Ah oui, d'autant plus que la nouvelle de la défaite 2-0 de Lille est arrivée jusqu'ici, au stade Bollard, où on vient d'arriver.
On imagine, effectivement.
il fait bien froid, mais je pense que les acteurs ce soir vont nous réchauffer. D'abord parce que Lens, en effet, aime ce genre de rencontre. Il y a beaucoup de cadors de Ligue 1 qui sont venus se casser les dents ici, parmi les victimes de cette équipe de Lens, qui n'a perdu qu'une fois à domicile hein, depuis le début de la saison. Il y a Monaco, il y a Rennes, il y a Lille, donc il y a le Paris Saint-Germain qui a été accroché également, et donc cet Olympique de Marseille qui avait été battu par Lens au match aller à Marseille, c'était au mois de septembre, 3-2. C'est un match qui avait été un petit peu le tournant de la saison, en tout cas pour l'OM, qui jouait à l'époque très offensif, très débridé, et qui avait pris une leçon de réalisme ce soir-là. Depuis, l'OM est une espèce de coffre-fort. Hein. C'est la meilleure défense de Ligue 1, et cette défense va être mise à rude épreuve ce soir, parce qu'en face, il y a donc cette pétillante équipe lensoise, emmenée par ce qui est peut-être le meilleur milieu de terrain du championnat à l'heure actuelle. Seko Fofana et tous ses coéquipiers bien décidés à en faire un grand coup, à taper un grand coup de plus ce soir sur ce championnat. Petit bémol peut-être, vous dire que ce soir, hélas, à cause de la jauge sanitaire, il n'y aura que 5000 spectateurs à Bollard. Mais bon, ça devra sans doute faire sans doute du bruit, parce qu'on aime ici ça, l'ambiance, elle sera chaude, quoi qu'il advienne. Coup d'envoi à 21h de ce Lens Olympique de Marseille.
C'est bien noté, Jean-François Pérez, à tout à l'heure.
Lens Marseille à suivre, bien évidemment, dans Europe 1 Sport. Ce soir avec vous, Lionel Rousseau. À part ça, quel est le programme?
Joli programme à partir de 20h, puisque avant ce match en intégralité, nous recevrons Arsène Wenger, le directeur du développement du football de la FIFA, qui va tenter de nous convaincre du bien fondé d'une Coupe du Monde tous les deux ans. Il a de bons arguments, et il les exposera ce soir, mais il vient aussi parce qu'un documentaire lui est consacré, diffusion demain à 21h sur Canal+. Invincible, tout simplement parce qu'Arsène Wenger, à l'époque où il était entraîneur d'Arsenal, il y a passé 22 ans, il a tout gagné là-bas, la Première Ligue, la Cup, bien sûr. Pendant toute une saison, il a été totalement invaincu, donc il ne s'est jamais vraiment senti invincible, mais invaincu, c'est vrai. Aucun match perdu pendant 38 journées de Première Ligue, et ce documentaire lui est consacré. On y revient aussi sur sa carrière, son passage à Monaco, et on l'évoquera donc ce soir dans notre émission.
Une grande voix du football ce soir sur Europe 1 avec vous, Lionel Rousseau. Merci Raphaël Delvolvé, c'était votre journal. On va retrouver la météo de Valérie Darmon. Valérie, si j'ai bien compris, il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'évolutions dans le programme de la journée de demain. Hein.
Effectivement, toujours grâce à l'anticyclone situé sur l'Irlande qui se renforce et qui persiste au moins cette semaine. Le temps qui reste donc calme, mais la grisaille qui continue de s'imposer sur la moitié nord, du Lyonnais au centre et à la Lorraine. Brouillard givrant qui se dissipe au fil de la matinée, ce qui n'empêchera pas au ciel de rester gris sur toute cette moitié nord. Sur la façade atlantique, de larges éclaircies apparaissent sur le Finistère et vers la Vendée. Et sur la moitié sud, de la Nouvelle-Aquitaine au sud du Massif central en Occitanie, sur les Alpes et en région PACA, la journée est toujours très bien ensoleillée. Les minimales restent généralement positives sous les nuages de la moitié nord, avec 0 à 3 degrés dans l'intérieur des terres. Au sud, les gelées sont à nouveau généralisées, avec moins 6 à moins 2 justement dans les terres. Les maximales oscilleront entre 3 et 6 en général, sur un large quart nord-est, 6 à 9 de la Bretagne au sud-ouest et 11 à 13 près de la Méditerranée.
Merci Valérie Darmon.